L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est midi. Nous sommes le 16 octobre 1793. La charrette dans laquelle se trouve l'ancienne reine de France n'a rien de commun avec les carrosses clinquants qu'elle utilisait sous le règne de son mari, le roi Louis XVI. Son véhicule d'aujourd'hui est brinque-ballant. Une de ses roues manque de se détacher. Il est à l'image de son destin, en perdition. Nous sommes le 16 octobre 1793, il est midi, c'est l'heure H de mon histoire. Encerclé de toutes parts, le véhicule s'avance sur la place de la Révolution. La foule dense, compacte, vocifère à son encontre. Insultes, colibets, crachats. Stoïque, elle n'est déjà plus dans cette charrette qui risque à tout moment de s'effondrer. Elle n'est déjà plus à Paris non plus. Elle regarde le ciel. Le ciel du mois d'octobre est couvert d'une couche nuageuse caractéristique de l'automne. Elle y distingue le Christ, son mari aussi. Le 21 janvier, il y a quelques mois, il a connu le même supplice qu'elle s'apprête à vivre, elle aussi. Elle pense à son plus proche ami, Axel de Fersen, ce magnifique Suédois dont elle est tombée éperdument amoureuse. Alors, il a tout tenté pour les sauver, elle et sa famille, pendant l'épisode déjà bien connu de la fuite avortée de Varennes. Mais rattrapée par ces diables de révolutionnaires, enfermée en prison et destituée, toute la famille royale de France devient la famille Capet. Ils sont jugés par un tribunal qui, sans surprise, les calomnie à tort et à travers et les condamne tous deux à mort. Mais tout ça est déjà bien loin dans son esprit. Et devant les regards haineux des bourgeois et des prolétaires parisiens qui sont venus la voir souffrir, elle répond avec un regard vide et une dignité qui sied à son rang. Au milieu de la place, à une cinquantaine de mètres de sa position actuelle, se dresse tel un symbole, la guillotine. Voilà l'instrument de sa fin de vie. Un rayon de soleil transperce la place bondée et vient se refléter contre la lame qui se dresse tout en haut de la structure en bois. Bientôt, le bourreau coupera la mince corde qui la relie encore à la vie. La charrette tirée par deux vieux percherons, elle, continue inlassablement d'avancer vers les escaliers de la guillotine. Elle est simplement composée d'un plateau de bois posé sur des essieux de mauvaise qualité. À côté d'elle, un prêtre l'accompagne, qui a été choisi comme confesseur. Ils sont tous les deux dos au conducteur. Il n'a pas un mot doux pour elle, pas un regard, pas même un sourire. Elle le sait, elle est détestée par tous ces gens qui ont choisi de renverser l'ancien régime. Elle avoue ne pas comprendre pourquoi d'ailleurs, tant elle s'est efforcée de toujours agir avec respect et diligence, formée par sa mère, la grande Marie-Thérèse d'Autriche, à prendre soin de son peuple. Elle n'a pas conscience que son train de vie, conjugué aux difficultés extrêmes que rencontre sa population, l'ont conduit, elle et son mari, à la catastrophe. Derrière elle, à côté du conducteur, quelqu'un. Elle perçoit une odeur rance, presque insupportable. Son bourreau est aussi dans la charrette. Percevant les insultes proférées contre la reine, il harangue la foule, rigole presque. Tout le long du parcours, entre la prison et la place de la Révolution, ce sont près de 30 000 soldats qui ont été placés comme pour former une haie d'honneur pour saluer sa mort. Mais surtout pour empêcher la population de la massacrer sur les pavés parisiens. Bientôt, les percherons s'arrêtent. Le bourreau descend, l'abbé aussi. Le conducteur, lui, sifflote. Vêtu de blanc, immaculé comme drapé dans la souffrance à venir, Marie-Antoinette fait face à son destin, implacable et cruel. Elle descend, aidée par Monseigneur l'abbé. À côté d'elle, tel un monstre gigantesque, l'échafaud est là, et à son sommet, la lame aiguisée la toise d'un sentiment de toute puissance. Il est midi 11, l'ex-reine de France, dernière représentante d'un monde qui n'existera plus après son exécution, monte les escaliers qui l'amènent à la mort. À la troisième marche, elle perd l'un de ses souliers qui roule sous l'édifice en contrebas. Immédiatement, un député se précipite pour le ramasser et le cache sous sa redingote. En haut des escaliers, face à l'immense foule en colère, haineuse même, Elle se sent défaillir, mais ne fait pas ce plaisir aux spectateurs présents. Prise d'un mouvement de recul, elle marche sur le pied du bourreau avec son autre chaussure qu'elle a gardée au pied. Instantanément, naturellement, elle laisse ressurgir sa vraie personnalité, qui ne la quittera jamais, même au bord du précipice. Elle dira « Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès. » Pour seule réponse, celui qui arme la main de la faucheuse émet un grognement. Ses acolytes attachent Marie-Antoinette sur la planche des condamnés. On lui retire sa coiffe et ses cheveux coupés sommairement par le bourreau dans la cour de la prison virevoltent au vent. Couchée sur cette planche, la reine est prise de nausées. Il faut dire qu'elle baigne dans le sang de celles et ceux qui sont passés avant elle et sa tunique blanche bientôt est tachée de taches rougeoyantes. La tête qui dépasse légèrement de la planche, elle lève une dernière fois son regard royal vers son peuple qu'elle a sincèrement et profondément aimé. Comme son mari, elle meurt innocente. Si elle est coupable, c'est d'être née dans un monde différent, protégée, trop éloignée du quotidien de ses sujets. Elle meurt aujourd'hui en terre étrangère, loin de son pays d'origine, loin de sa famille, loin de ses enfants qui sont enfermés en prison. Quant au jeune héritier du trône, il croupit dans une cellule inhumaine pour un enfant. En levant les yeux, elle remarque que les députés Danton, Robespierre, Saint-Just sont là et qu'ils la toisent. Plus au loin, une femme, forte, mégère, des bas quartiers, hurle à qui veut bien l'entendre « Tu meurs pour ton collier, Capet !» À cette fameuse affaire du collier. Jusque dans la mort, cette malédiction va la poursuivre. Elle n'a pas le temps d'y repenser que le bourreau actionne brusquement la machine à mort. Sa tête tombe et roule dans le panier. Le bras armé de la grande faucheuse s'en saisit et hurle « Vive la République !» La foule exulte, hurle sa joie et son soulagement. Leur quotidien, lui, ne va pas changer pour autant. Mais ce drame et leur bonheur d'y assister ne sont finalement que des manifestations tristement humaines tout à fait caractéristiques. En contrebas, certains députés murmurent « La reine est morte. Vive la nation !» Et bientôt, chacun vaquera à ses occupations habituelles. Marie-Antoinette, elle, est bien morte au crépuscule de ses 37 ans. Nous sommes le 25 avril 1778. Il est 14h42. Le château de Versailles, navire amiral sur l'océan France, se dresse devant les yeux des visiteurs de toute sa majestuosité depuis plus d'un demi-siècle. Le jeune roi Louis XVI, souverain du pays depuis 4 ans, est à la tête d'un royaume qui prend l'eau. La cause ? Un niveau d'endettement faramineux, hérité de son grand-père et de Louis XIV, et un train de vie dispendieux au possible. Pour faire face à cela, de nouveaux impôts sont levés, encore et toujours, et le petit peuple commence à grogner sérieusement. Leur cible est toute trouvée. S'en prendre au roi, risquer, mais viser sa femme, la jeune Marie-Antoinette venue d'Autriche, voilà une alternative des plus attrayantes. Ainsi, les rues parisiennes voient fleurir ci et là des caricatures et des pamphlets depuis déjà quelques mois à son intention directe. La jeune femme, protégée par la bulle que lui offre la cour, n'a cure de ces bruits du dehors. Son mari, lui, vient de faire un choix politique fort qui aura des répercussions qui seront catastrophiques sur le plan économique. Soutenir les insurgés américains dans leur combat contre les Anglais. Mais concentrons-nous sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Deux visiteurs, suivis par un serviteur empêtré avec une grosse malle, se présentant aux grandes grilles dorées de la demeure royale. Ils sont attendus par le roi lui-même. Il faut dire qu'ils viennent de Paris, protégés par une escorte royale. Ils apportent un colis commandé par la royauté, par le grand-père et prédécesseur du roi, Louis XV. Mais vous allez me dire, quel type de paquet peut être livré des années après sa commande et surtout, un paquet qui nécessite une protection militaire pour être acheminé? Comme le roi. Vous aurez bientôt les réponses. Leurs souliers, pas vraiment au goût du jour, mais pas vraiment passés de mode non plus, claquent contre les parquets de la Galerie des Glaces. Cette merveille architecturale et décorative d'un temps révolu. Les courtisans, les membres de la cour et certains ministres tournent le regard vers ces visiteurs d'un jour, distraitement à leur passage. Les lustres reluisent de cette lumière du printemps et les fenêtres, ouvertes au grand vent, laissent passer le bruit des fontaines et des rires épars venant des parterres. L'entrevue d'aujourd'hui est secrète pour Louis XVI. Pomponné à la poudre blanche, à l'étroit dans une tenue en soie de Perse qui le rend encore plus gros qu'il ne l'est vraiment, il s'affaire à réparer une horloge qui a été cassée la semaine précédente. Oui. Oui, vous avez bien entendu, le roi est un passionné d'horlogerie et de mécanique. Il répare, innove et, pour ce faire, délaisse les affaires de l'État aussi. Ce rôle de souverain est un peu trop grand pour lui, il faut bien l'avouer. Il n'était que le troisième de la succession, mais ses deux frères décédés lui ont laissé la couronne en cadeau. Marié à une fille de l'empereur d'Autriche, il en est tombé éperdument amoureux alors qu'il était adolescent. Un peu empoté, il n'a jamais vraiment attiré son attention à elle, la magnifique Marie-Antoinette. Aujourd'hui, ils sont mariés. Elle éprouve de la tendresse pour lui, certes, oui. Assure son devoir conjugal, c'est certain, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il tient peut-être enfin l'occasion de lui faire plaisir. Les deux bourgeois endimanchés, comme des Parisiens endettés, sont en réalité des joailliers, reconnus par tout le royaume pour leur talent. Il leur arrive même de recevoir des commandes des cours étrangères. Il y a 6 ans, en 1772, le roi Louis XV leur a commandé pour sa dernière favorite, Madame du Barry, un collier tout particulier. Celui-ci devait obligatoirement être composé de diamants, d'une richesse inégalable et inégalée. Mais 2 ans plus tard, le roi meurt de maladie. La maîtresse est exilée et le bijou est toujours en fabrication. Les deux joailliers s'endettent très fortement. Peine à terminer l'ouvrage, qui a été achevé seulement il y a quelques semaines. Il faut dire que cette pièce est tout à fait inédite. Tenez-vous bien, 100 perles, 674 diamants, qui représentent un total ahurissant de 2842 carats. Oui. Il est prévu de descendre en haut du dos et sur les épaules. En réalité, la reine a déjà refusé de les recevoir. Et leur dernier espoir est maintenant entre les mains de son époux, le roi. Introduit auprès de sa majesté, les deux hommes lui présentent l'objet de leur production. Sous le charme, Louis XVI accepte d'acheter le collier à condition que la reine soit d'accord pour cette éventualité. Un peu interloqué par le côté empoté de ce jeune roi, les joailliers de la place Louis le Grand annoncent leur prix. 1 600 000 livres. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, cela correspondrait à la somme actuelle de plus de 27 millions d'euros. Tout bonnement faramineux. Les deux hommes se retirent et rentrent à Paris, emportant leur trésor avec eux. Le soir même, empruntant les passages secrets de Versailles pour rejoindre sa femme dans sa chambre, Louis évoque avec elle l'achat de ce collier. Marie-Antoinette, en tenue de nuit, les cheveux relâchés, écoute attentivement son jeune époux. Si son sens du discernement semble altéré, le sien à elle est aussi vif que possible. Elle sait que les comptes sont à sec. Et bien qu'elle soit bien plus dépensière que la situation ne le permette, cette somme d'argent lui fait tourner la tête. Gentiment, même si elle connaît les bonnes intentions de Louis, elle refuse. Un peu dépité, le souverain retourne dans ses appartements et fait envoyer une missive le lendemain à Paris à destination des vendeurs. Ces derniers, recevant la lettre, tombent des nues. Les voilà avec une montagne de dettes et un collier dont personne ne veut. Pour eux, cette nouvelle est une véritable catastrophe. Ce premier refus est motivé par plusieurs raisons. D'abord, la reine estime que cet argent peut être utilisé à de meilleurs usages. Ensuite, porter une parure qui a été créée pour la du Barry, qu'elle a toujours considérée comme une rivale, la répugne. À Madame Campan, une de ses amies, elle confie que ce collier de style, déjà démodé, lui rappelle un harnais pour chevaux, en ajoutant qu'elle n'en a pas l'usage. Elle ne porte de parure que 4 ou 5 fois par an seulement. De leur côté, nos amis joailliers passent les 2 années suivantes à tenter de vendre leur œuvre au plus offrant. Mais les portes qui se claquent à leur visage se multiplient. Espagne, Russie, Toscane, de Sicile, même l'Angleterre. Tous ces voyages infructueux ne font qu'alourdir encore plus un endettement qui ne cesse de se creuser. En 1781, la naissance du dauphin de France leur donne l'occasion d'approcher la reine une nouvelle fois. Ils baissent légèrement leur prix. Louis XVI, devenu véritable expert en joaillerie, s'apprête à accepter, et Marie-Antoinette semble convaincue. Mais en avril 1782, la défaite des Saintes contre l'Angleterre entraîne la perte d'une partie de la flotte du pays. L'achat est donc finalement reporté. L'année suivante, n'y tenant plus, l'un des 2 orfèvres se jette aux pieds de la reine, menaçant même de se suicider. Pour seule réponse, la prudente souveraine lui conseille de dessertir les diamants et de vendre les plus gros à bon prix. Toute l'agitation provoquée par cette affaire commence à attiser les convoitises, à faire parler à la cour. Et certains esprits mal intentionnés se préparent déjà à sauter sur l'occasion pour en profiter et berner le couple royal. L'une d'entre eux, Madame de la Motte, lointaine descendante des Valois, à la recherche d'escroqueries faciles, échafaude un plan qui va bientôt entrer dans l'histoire.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'une des affaires les plus incroyables de la royauté française. La toute jeune reine de France, connue pour sa vie dispendieuse, refuse tout de même depuis de nombreuses années l'achat d'un magnifique collier qui fut commandé par le prédécesseur de son mari sur le trône, Louis XV. Devant l'insistance répétée des joailliers qui l'ont réalisé et comme des bruits autour de cette affaire se propagent à la cour, Marie-Antoinette sera bientôt la victime collatérale d'un scandale qui lui coûtera sa réputation et sa légitimité. Tout commence à l'hiver 1784. Entre les fêtes de Noël et le jour de l'an, la place Louis le Grand sommeille dans l'obscurité. Les flammes, qui émanent des lampadaires publics, transforment les rues parisiennes en balles de feu follet. Et tous semblent fêter le passage à la nouvelle année avec joie et entrain. Entre 2 flammes dansantes s'avance une courtisane de la cour, prenant soin d'éviter la lumière artificielle et les badauds encore nombreux dans les rues. Ce soir, elle rencontre les 2 joailliers qui ont fabriqué le collier. Madame de la Motte, c'est son nom, œuvre dans le plus grand secret depuis des mois pour réaliser le coup de sa vie. Elle a trouvé le moyen, en s'infiltrant à la cour insidieusement, d'arnaquer l'une des têtes les plus haut placées du royaume, le cardinal de Rohan. Voilà quelques mois qu'elle se fait passer auprès de lui pour une amie intime de la reine et qu'elle lui transmet des messages prétendument signés de la main de la souveraine. Toutes ces lettres sont paraphées Marie-Antoinette de France. En réalité, il aurait dû savoir que les reines ne signent que de leur prénom à l'époque. Et surtout, si elle l'avait fait, elle aurait signé de Lorraine ou d'Autriche. Madame de la Motte a un de ses amis faussaires qui imite parfaitement la royale écriture. Et de Rohan tombe très facilement dans le panneau. Il faut dire que ses relations avec la reine sont plus que tendues. Un vieux contentieux les oppose farouchement depuis des années. Je vous raconte. Le cardinal a été ambassadeur de France en Autriche. Il se rend compte un jour que l'impératrice d'Autriche, la mère de Marie-Antoinette, fomente un coup politique qui nuirait à la France. Aussitôt, il écrit à Louis XV une lettre qui, détournée, finit entre les mains de la favorite du roi, la du Barry. Les deux femmes, la du Barry et Marie-Antoinette, se détestent. Et afin d'humilier la jeune femme, du dauphin Louis XVI à l'époque, elle lit le courrier à haute voix et en plein dîner diplomatique en présence de Marie-Antoinette. Dans celui-ci, le cardinal la considère comme une femme volage. Et pire encore pour elle, la mémoire de sa mère est salie. Vous imaginez bien qu'entre elle et le cardinal, c'est la rupture nette de toute relation. Tout ceci se passe avant le couronnement de l'Autrichienne en tant que reine et Rohan se trouve donc disgracié aux yeux du couple royal. Pour lui, cette affaire de courrier qui lui parvienne sous le manteau est donc une formidable occasion d'espérer un retour en grâce auprès des deux souverains. Obnubilé par l'espoir de retrouver un statut, il se fait berner très facilement. Mais l'instigatrice du complot, cette Madame de la Motte, juge que les faux ne sont pas suffisants et que le cardinal doit rencontrer la reine. C'est indispensable. D'autant que, hésitant devant les promesses écrites de réconciliation, le cardinal réclame aussi une rencontre pour s'en assurer. À force de nombreuses recherches, elle finit par dénicher au cœur du palais royal une prostituée dont la ressemblance avec la souveraine est frappante. Contre la coquette somme de 15 000 livres, cette dernière accepte de jouer le jeu. C'est ainsi qu'en août 1784, en plein milieu d'une fraîche nuit d'été, la prostituée, vêtue d'une robe copiée d'un tableau de la reine, reçoit dans les jardins de Versailles le cardinal. L'accueillant avec une rose, elle la lui remet en lui assurant que le passé est oublié. Afin de ne pas faire capoter le plan avec des discussions qui pourraient la trahir, Madame de la Motte surgit alors elle-même, avertissant que les belles-sœurs de Marie-Antoinette traînent dans les parages. Ce faux contretemps, totalement inventé, vient mettre un terme à cette entrevue, complété le lendemain d'une nouvelle fausse lettre signée de la main de la reine. Vous l'imaginez bien, le cardinal est conquis et sa confiance en cette Madame de la Motte est assurée. Pour elle, le plus dur commence. S'approcher du collier. Nous avions quitté Madame de la Motte à Paris un soir de décembre 1784, alors qu'elle s'apprêtait à rencontrer les fabricants du plus cher collier que le monde n'ait jamais connu. Voilà qui est chose faite. Eux aussi sont bernés par son assurance. Ils la croient lorsqu'elle évoque ses liens privilégiés avec la souveraine. Lorsque les joailliers ouvrent la boîte qui contient le trésor, elle en tombe amoureuse. Elle en est dorénavant certaine. Elle va monter une arnaque à 1 600 000 livres. Bien entendu, elle n'a pas les moyens d'acheter le bijou, mais son ami le cardinal, oui. On parle tout de même d'une somme qui vous permettrait d'acheter à l'époque 3 ou 4 châteaux et quelques 500 hectares de terre alentour. Rien que ça, oui. Elle fait donc envoyer une lettre via son faussaire à l'homme de Dieu en lui faisant croire que la reine veut ce collier mais ne peut l'acheter directement pour ne pas compromettre son image. En parallèle, elle reste en contact avec les joailliers en leur promettant une transaction rapide. Le cardinal de Rohan est d'accord sur le principe de verser la somme totale pour acheter le bien et de recevoir en contrepartie 4 versements de 400 000 francs chacun. Pour enfoncer le clou, elle fait rencontrer au cardinal un diseur de bonne aventure qui lui annonce son retour en grâce et sa nomination au poste de Premier ministre si le collier entre bien en possession de la reine. Banco. Le 1er février 1785, en soirée, le cardinal signe les 4 traites et se fait livrer le bijou qu'il remet à Madame de la Motte dans un appartement qu'elle a loué à Versailles. Comble du comble ! L'entremetteuse, qui n'est autre que l'instigatrice de l'arnaque, reçoit aussi des cadeaux de la part des joailliers. Une fois seuls, les escrocs, Madame de la Motte en tête, vont dessertir le collier. Pierre à pierre, perle à perle. dans leur précipitation et leur maladresse. L'ensemble en sera considérablement abîmé. Chaque complice prend sa part et l'équipe se disperse le soir même. La revente des diamants ne va pas être chose aisée. Madame de Lamotte et ses complices ne sont pas du tout connaisseurs du marché et vont donc manquer de se faire repérer à plusieurs reprises. La qualité des pierres frôle la perfection. Et alors qu'ils sont pressés par le temps, tout ce petit monde négocie les prix bien en dessous de la valeur réelle des objets. Plusieurs diamantaires sentent le coup venir, dénoncent une potentielle arnaque, mais à chaque fois, les escrocs prouvent leur bonne foi et s'en sortent de manière presque miraculeuse. Une fois que le marché est saturé à Paris, direction Bruxelles, où d'autres pierres sont vendues aussi. Les derniers exemplaires, les plus beaux, sont acheminés jusqu'à Londres. Les diamantaires anglais, également suspicieux et persuadés d'avoir affaire au fruit d'un vol, signalent les bijoux. Mais comme à Paris, personne n'a signalé de vol de ce type de bijoux, puisque le collier a été acheté légalement par le cardinal et qu'il est censé être arrivé dans les collections personnelles de Marie-Antoinette, on n'y donne donc pas suite. Rassurés par le fait qu'aucun vol de ce genre n'est à déplorer, les diamantaires achètent les pierres. En quelques mois seulement, le collier dans son entièreté a été desserti et dilapidé. Acheté en février, la première échéance de paiement doit être versée pour le 1er août 1785. Le cardinal de Rouen, fier comme un coq d'être au cœur d'une correspondance secrète avec la reine, attend un signe de sa part et attend aussi de la voir porter le fameux collier qu'il lui a acheté en sous-main. Il ne s'inquiète pas encore de ne plus voir Madame de Lamotte dans les allées de Versailles aussi souvent qu'auparavant. Lorsqu'il lui fait remarquer que le non-port du bijou est étonnant, elle ne se démonte pas et avance le fait qu'une grande occasion est nécessaire pour justifier sa première présentation à la cour. Enchanté, le cardinal attend donc son heure. Madame de Lamotte couvre ses arrières un peu plus en mentionnant à l'homme de Dieu que si le sujet du collier arrive sur la table des discussions, il est préférable de mentionner qu'il a été vendu au sultan de Constantinople. Au milieu du mois de juillet, Madame de Lamotte est en grande difficulté au moment de devoir verser les 400 000 premiers livres de la traite signée par le cardinal. L'homme de Dieu et les joailliers attendent. Madame de Lamotte leur demande de trouver des prêteurs pour aider la reine à rembourser et des soupçons commencent tout doucement à germer dans les esprits. N'y tenant plus, l'un des fabricants va trouver directement à la mi-août la première femme de chambre de la reine afin de lui faire part de ses inquiétudes concernant ce premier paiement. Vous l'imaginez bien, la femme tombe des nues et se précipite chez Sa Majesté afin de lui faire part de cet entretien des plus troublants. Marie-Antoinette ne comprend pas de quoi il peut s'agir, étant donné qu'elle a refusé plusieurs fois l'achat de ce collier et pense au départ à avoir affaire à une erreur ou une tentative de la part des joailliers pour lui mettre la pression. C'est donc tout naturellement qu'elle charge le ministre de la Maison du Roi de mener l'enquête à ce propos et lui donne pour cela carte blanche. Mais cet homme est aussi un ennemi juré du cardinal de Rouen, puisqu'il a, fut un temps, convoité son poste d'ambassadeur à Vienne. Vous l'avez compris, dès que monsieur le ministre est au courant que le cardinal est impliqué dans une affaire d'escroquerie, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour lui nuire, emportant avec lui tout sur son passage, y compris l'image de sa souveraine, la reine Marie-Antoinette.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de l'affaire du collier de la reine. Alors qu'il avait été fabriqué pour l'ancienne favorite du roi Louis XV, il est finalement proposé à Marie-Antoinette pour qu'elle le porte. La reine refuse cette éventualité à de nombreuses reprises, rebutée par le prix et le passif du bijou. Cependant, une escroquerie montée par une femme gravitant autour de la cour s'organise et le cardinal de Rouen en est la principale victime. Cependant, l'image de la reine et son intégrité en sont touchées de plein fouet. Au moment du premier versement, toute la pyramide s'écroule. Mise au courant, Marie-Antoinette lance une enquête qui, vous allez le voir, s'annonce retentissante. Madame de la Motte, qui devait verser en août les premiers 400 000 livres, en verse seulement 35 000 au cardinal. Elle a pourtant touché 300 000 livres grâce à la vente de son lot de pierres. Mais elle a déjà dilapidé une partie de l'argent. Pour tenter de se sortir d'affaire et de peur de voir le scandale éclater, elle va mettre la pression sur l'homme de Dieu pour qu'il règle la note complète. Elle informe les joailliers que la signature de la reine est un faux depuis le départ. Stupéfaction chez tous les intervenants. La bulle éclate pour le cardinal de Rohan. C'est l'enfer qui s'ouvre sous ses pieds. Nous sommes le 15 août 1785. Il est 10 heures. Le cardinal, également grand aumônier de France, s'apprête à célébrer au château de Versailles la grande messe de l'Assomption. La chaleur est étouffante. La chapelle du château resplendit de lumière et de beauté. L'or et les pierres sont toujours aussi belles que lors du règne du roi Soleil, et l'autel, lui, de marbrerie et d'objets précieux. Le stress qui l'assaille n'est pas commun chez cet homme qui, de coutume, est plutôt serein. Il a la nette impression, sans certitude pour le moment, de s'être fait berner et d'y avoir impliqué la couronne. Sous sa soutane lourde et dorée, la sueur qui perle n'est pas seulement liée à la chaleur. C'est surtout de la peur. C'est surtout presque de la panique. Alors qu'il prépare l'hostie et les calices nécessaires à la bonne organisation de sa messe, il est attrapé à l'épaule par un envoyé du roi. Celui-ci lui ordonne de se rendre dans les appartements royaux. « Maintenant ?» demande le prélat un peu sonné. « Maintenant, oui. » Et ils ne seront pas seuls. Le roi, la reine, le garde des Sceaux et le ministre de la maison du roi, rien que ça. Le cardinal se sent défaillir, mais discrètement, sans retenue, il est amené vers son destin. La pièce, sombre, les persiennes mi-closes et baignées de tension. Le roi, habillé pour l'occasion de l'Assomption, fait les 100 pas. Ses ministres, en retrait, chuchotent. Et la reine, elle, telle méduse, plante ses yeux bleus acier dans ceux du cardinal de Rohan qui, mort de peur, tremble de tous ses membres. Le dialogue qui s'annonce ensuite va être pour lui des plus déplaisants. Calmement, les ministres lui déroulent ce qu'on lui reproche et le dossier monté contre sa personne est si complet qu'il en perd ses moyens. Lorsque le roi lui demande clairement des explications, il ne sait quoi répondre. Il paraît tellement dépassé que Louis XVI lui accorde son bureau le temps de préparer sa défense. À son retour, la reine n'a pas bougé et, enfin, décide de parler. Impulsive, haineuse, elle demande à son mari d'envoyer à la Bastille sur le champ le cardinal. Alors qu'il tente de lire son écrit, le roi le coupe et lui demande s'il est en possession du collier. Stupéfait, désarçonné, il répond par la négative en regardant la reine, qui se détourne de lui avec dédain et mépris. Pire, elle lui dira pour seule parole ces quelques mots. « Et comment avez-vous pu croire que moi, qui ne vous ai pas adressé la parole depuis 10 ans, j'aurais pu m'adresser à vous pour une affaire de cette nature ?» Le roi, lui, prévient le cardinal qu'il va être arrêté. Ce dernier joue son va-tout. L'Église et sa dignité, sa famille, les liens des siens avec le roi, tout y passe. La reine, dans le coin de la pièce, le voit bien. Son mari est prêt à craquer et à pardonner aux villes de Rohan. Alors que leurs regards se croisent, elle fait bien comprendre à Louis qu'il n'a pas le choix. Ces quelques secondes suspendues dans le temps permettent au roi de reprendre ses esprits. Lapidairement, aussi froidement qu'un iceberg percutant un voilier dans l'océan, il conclut l'entretien de cette manière. « Je fais ce que je dois, en tant que roi et en tant que mari. Sortez. » En sortant de la pièce, le cardinal, ému aux larmes, tremblant de honte, accélère le pas vers ses appartements. Il espère surtout ne pas être arrêté au milieu de la cour et des courtisans, ce qui pour lui serait la honte suprême. En faisant irruption dans la galerie des glaces, certaines femmes de la cour l'apostrophent. Elles voudraient discuter ou se confesser. Poliment, il refuse, prétextant être pressé. Au beau milieu de la galerie, sous un de ces magnifiques lustres en cristal de baccarat qui la composent, des mousquetaires du roi, de la boue sur les bottes et la main sur l'épée, appréhendent le cardinal, encore en grande tenue d'aumônier. La cour est médusée, sous le choc. Les deux Rohan sont des membres de la grande noblesse depuis des siècles. Ils sillonnent les palais royaux et côtoient le pouvoir au plus près. Le parfum du scandale embaume le château de Versailles. Et les murmures et les silences gênés se confondent pendant des heures à la suite de cet épisode. Alors qu'elle est persuadée d'être couverte d'éloges pour son action, la reine Marie-Antoinette se ravise le soir même. Jamais la cour n'avait été aussi froide à son égard. Ses amis l'évitent ou sont gênés. La tâche de l'arrestation du cardinal restera pour elle indélébile. De Rohan est lui envoyé à Paris, dans une cellule miteuse de la Bastille. Il commence tout de suite à rembourser les sommes dues, vend ses biens propres, notamment son château personnel. Ses héritiers vont continuer de payer cette dette hallucinante jusqu'en 1881. Madame de la Motte, elle, l'instigatrice, est arrêtée. Son mari se sauve à Londres avec les dernières pierres et la prostituée, qui avait joué le rôle de la reine, enceinte jusqu'au cou de son amant, est elle aussi arrêtée à Bruxelles. Pour eux tous, le procès qui s'annonce va être une épreuve des plus difficiles. Le roi va alors prendre une décision des plus stupides. Il laisse le choix à son cousin cardinal, la juridiction devant laquelle il souhaite être traduit. Soit à huis clos, devant Louis XVI lui-même, soit devant le Parlement de Paris, une institution judiciaire souvent en opposition au pouvoir royal. Le cardinal fait rapidement son choix. Le jugement se fera dans la capitale. Son avocat réalise une plaidoirie si convaincante que, moins de 3 ans plus tard, il deviendra député de la Convention alors que la Révolution française éclate. Le Parlement de Paris, le vol du collier ne lui est pas imputé. Et donc, il est jugé pour crime de lèse-majesté, pour s'être trompé en envisageant possible que la reine lui accorde des entrevues et des courriers privés. L'opinion, elle, a choisi son camp et se retourne contre la reine. Le 30 mai 1786, le cardinal est acquitté pour tous les chefs d'accusation qu'on lui reprochait. Pour Marie-Antoinette, c'est un camouflet. Madame de la Motte est condamnée à la prison à perpétuité après avoir été marquée au fer rouge sur les deux épaules d'un V caractérisant les voleuses. Elle se débat tellement que le V prévu sur l'épaule gauche termine sur son sein. Son mari est condamné aux galères par contumace étant donné qu'il se trouve à Londres. La prostituée, elle, est mise hors de cause. Pour la reine, c'est une catastrophe en termes d'image. L'acquittement du cardinal signifie qu'on imagine tout à fait capable d'écrire en cachette des billets doux, de recevoir des rendez-vous secrets la nuit dans les jardins de Versailles ou bien d'acheter des bijoux à prix d'or par des billets douteux. Elle obtient de son mari, le roi, que le cardinal de Rohan soit exilé de la cour dans une abbaye éloignée du château. Il passera plus de 2 ans sur les routes de l'exil. Marie-Antoinette n'est coupable de rien dans cette affaire de faux. Elle n'est coupable d'aucune manière et pourtant, l'opinion publique refuse de la voir innocente. Les pamphlets qui couraient déjà dans les rues se multiplient. Les opprobes circulent de toutes parts et la couronne prend un coup sans précédent. Et pour ne rien arranger, la diabolique Madame de la Motte parvient à s'évader de sa prison et à s'enfuir pour Londres. Comble du mensonge et du crime de lèse-majesté, elle publie à son arrivée à Londres un récit où Marie-Antoinette est qualifiée de complice du début à la fin, jusqu'à sa propre évasion. Elle va même jusqu'à avancer que le cardinal et la reine avaient une liaison, et de plus belle, les caricatures parisiennes s'emparent de la thématique. Marie-Antoinette, qualifiée d'autrichienne ou d'autres chiennes, y est représentée offrant des diamants à de Rohan contre ses faveurs sexuelles. Pour beaucoup, Cet épisode est au cœur du déclenchement de la Révolution 3 ans plus tard. En effet, l'opinion renforce son sentiment de colère vis-à-vis du train de vie royal. La presse ne va plus lâcher ni cette thématique, ni celle consacrée à la reine. Le Parlement de Paris renforce son autorité, là aussi au détriment du pouvoir royal. Depuis déjà plusieurs siècles, l'opulence de la couronne vis-à-vis des difficultés que rencontre le peuple, à qui on demande toujours plus d'efforts, tout cela participe à maintenir au chaud les braises de la Révolution française. Un incendie qui, moins de 3 ans plus tard, fera changer le visage de la France pour toujours. Voilà donc pour ce récit palpitant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la complicité de Monsieur Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.